La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. Voici les invités de cette émission. Je salue tout d'abord Marie-Christine Monnoyer, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités. Je salue également Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie et membre du parti Les Républicains. Et je salue enfin Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, soutien du nouveau Front Populaire. Bienvenue également à vous trois, merci d'être au rendez-vous de la mêlée de l'info. Le budget 2025 de l'État est toujours étudié et discuté à l'Assemblée nationale. Lundi, lors des débats en commission sur le budget de la Sécurité sociale, les députés ont rejeté des amendements de la gauche qui remettaient en cause le report progressif de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans adopté il y a un an. Les élus du NFP ont déposé des amendements dont l'objectif est de produire de nouvelles recettes pour financer le système des retraites via une surcotisation sur les revenus supérieurs à 8700 euros net par mois. Mercredi, en revanche, cette même commission des affaires sociales a adopté le projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites portée par le Rassemblement national, mais en supprimant le retour à un âge légal de 62 ans et à une durée de cotisation de 42 ans pour l'obtenir à taux plein. D'autres amendements vont encore être discutés en commission, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous voyez, dans les diverses propositions qui ont été faites, des pistes à explorer ? Doit-on, selon vous, revoir le projet de réforme des retraites tel qu'il a été présenté et acté il y a un an ? Ou faut-il en rester à ce qui a été proposé à l'époque ? Et nous commençons avec Marie-Christine Monnoyer.
Merci de me donner la parole et bonsoir. Le dossier de la réforme des retraites est aujourd'hui très mal engagé. Et il l'est depuis qu'il a été voté. Il est mal engagé parce qu'en fait, il ne plaît à personne. Que l'on soit jeune, moins jeune, qu'on ait commencé à travailler de bonne heure ou qu'on s'y soit mis plus tard. Parce que l'idée initiale, qui avait été soutenue par M. Berger, n'a pas été retenue. Donc le dossier, la loi telle qu'elle a été votée, a de nombreux défauts. Est-ce qu'il faut tout recommencer ou est-ce qu'il faut essayer, comme essayent de le faire les partis politiques actuels à l'Assemblée nationale, en faisant des bémols ou des dièses, il me semble que ça ne permettra certainement pas d'obtenir une majorité joyeuse sur le nouveau système. Ce qui est très compliqué, c'est que la réforme était nécessaire. Elle était nécessaire à cause de l'allongement de la durée de la vie. Elle était nécessaire parce que dans la situation actuelle, il y a des gens qui ont commencé à travailler à 15 ans et il y a des gens qui commencent à travailler à 25 ans. Et donc, quand on donne un âge limite, évidemment, ça paraît un peu bizarre de s'appuyer sur un âge limite. Si on prend une durée de cotisation, c'est plus logique. Mais si on prend une durée de cotisation, pour ceux qui ont fait des études et qui ont commencé à travailler tard, la retraite, elle est très, très lointaine. Certains de mes étudiants qui travaillent à 25 ans, 25 ans plus 44, voilà. Donc on est dans une situation qui est presque, enfin, qui est un dossier ingérable. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir avec des petits aléas, des petites évolutions ? C'est sans doute le moindre mal, mais on n'aura pas le bon dossier de la réforme des retraites.
Sacha Briand.
C'est un dossier qui ressort tous les deux ans, à chaque fois que le régime de retraite est en crise, et notamment en déficit. Alors, deux, trois remarques. La première remarque, c'est que c'est un système aujourd'hui par répartition. Et on le sait, ce sont les cotisants, c'est-à-dire ceux qui, les actifs d'aujourd'hui, qui payent la retraite des retraités d'aujourd'hui. Il y a un point qui mériterait de pouvoir faire consensus, c'est que le régime ne peut pas être en déficit.
Ce serait bien. Le régime ne peut pas être.
Il ne doit pas être en déficit. Parce qu'un régime de retraite en déficit, ça veut dire que non seulement les retraités d'aujourd'hui voient leur retraite financée par les actifs d'aujourd'hui, mais qu'on reporte une partie du financement de la retraite d'aujourd'hui sur les générations futures, qui auront elles-mêmes donc à financer la retraite de leurs parents et de leurs grands-parents à ce rythme. Donc c'est évidemment suicidaire de laisser le régime de retraite en situation de déficit. Et ça, je pense que ça pourrait faire consensus. Après, on a un problème aujourd'hui, c'est que je pense qu'il peut y avoir un consensus sur la nécessité de rééquilibrer ce régime, mais il y a une discordance et un désaccord sur le moyen d'y remédier. Certains considèrent que il suffit d'augmenter les cotisations ou d'augmenter les recettes pour combler le besoin de financement.
Ou de diminuer.
Ou de baisser effectivement les dépenses si on ne veut pas augmenter les recettes. Ce qui est certain, c'est qu'on a un problème majeur qui est que le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités s'est effondré depuis 40 ans.
Et donc, que ça ne va pas s'arranger.
Et que ça ne s'arrangera pas dans le futur. Donc, il y a de toute manière un problème soit d'adéquation de la dépense à la recette, soit d'adéquation de la recette à la dépense. Entre les deux, il y a le problème de la notion de justice. C'est un concept sur lequel on peut avoir des idées différentes. Ce qui est certain, c'est que traiter la question par un âge de retraite est totalement absurde pour la raison qui a été évoquée. Effectivement, vous avez des gens qui commencent à travailler à 15 ans et d'autres qui commencent à travailler à 25 ans. Alors, évidemment, pour ceux qui commencent à travailler à 25 ans, on dit bon, les pauvres, s'il faut qu'ils travaillent jusqu'à 67 ans, 69 ans, c'est impossible. Et ça, c'est généralement dit par des responsables politiques qui continuent à être présents sur la scène politique au-delà de 70 ans. Donc, c'est toujours amusant.
Dans tous les partis.
Non, mais c'est toujours amusant oui. Quoi, d'entendre ça. Donc moi je crois que ceux qui ont commencé à 15 ans, ils ont commencé plus tôt, ils doivent avoir une durée légale de cotisation pour pouvoir avoir droit à la retraite, et ceux qui ont commencé plus tard, s'ils ont commencé plus tard, par hypothèse c'est qu'ils ont fait des études, par hypothèse c'est qu'ils vont peut-être avoir une situation professionnelle meilleure que ceux qui ont commencé à 15 ans et qui vont donc avoir des droits générés par les cotisations liées à des rémunérations plus importantes. Ah oui, mais si on commence à bosser à 25 ans pour faire des études qui font que vous êtes 10 ans au chômage, c'est que vous vous êtes trompé d'études.
Non, donc c'est là, pas c'est ça que je voulais dire. Qui vient sauf que c'est sur pas la table. Ça. C'est que tout le monde n'est pas dans la même situation, même s'il a commencé à travailler à 25 ans. Il y a ceux qui se sont arrêtés pour de bonnes raisons, de vraies raisons. Et que donc, dans ces conditions, on n'a pas le...
Ne traitons pas un problème juste par des situations minoritaires. Essayons de... Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on arrive à fixer de nouveaux principes sur le système de retraite, sur une situation générale. Puis après, bien sûr, on peut aller traiter les situations minoritaires ou particulières.
Il y a la situation minoritaire, des femmes, c'est la situation des femmes, c'est pas minoritaire.
Mais pour moi, c'est pas minoritaire. Mais il y a la situation des femmes, on le sait, qui a un impact sur la vie professionnelle. Elle doit être traitée de façon parfaitement...
Mais comme vous ne l'aviez pas dit...
Ah, oui, non, mais ça me paraît tellement évident. Pour moi, une grossesse, ça contribue, c'est essentiel dans le fonctionnement de notre société. Et donc, la prise en compte de la durée de grossesse et le cas échéant des conséquences que ça peut avoir sur l'interruption du travail, c'est une évidence. Alors, c'est vrai que pour certains, ils pensent que dès lors qu'on est un homme, on est sexiste. Mais non, dans ma génération, en tout cas, je pense que cette question-là, elle n'est plus réelle. Et puis, je crois que après, sur le dernier point qui est pour assurer le financement, est-ce qu'il doit y avoir une augmentation des prélèvements ou une adéquation du montant des montants des dépenses, par rapport aux recettes disponibles? Ça, c'est lié après à la question des prélèvements obligatoires globaux, du coût du travail, du coût des salaires, du coût de la main-d'œuvre pour les entreprises. Et donc, à un moment, il faudra qu'on arbitre sur quel est le niveau de prélèvement qu'on peut accepter et qui peut être raisonnable, en sachant qu'aujourd'hui, les retraites, c'est 384 milliards, c'est 13%, je crois, du PIB. Et donc, il y a un moment où on ne pourra pas aller à 20% du PIB. C'est pas possible. Donc, il faudra certainement avoir une logique de retraite minimale pour tout le monde, un socle commun pour tout le monde, y compris pour ceux qui cotisent plus parce qu'ils ont des rémunérations élevées, que ça n'est pas forcément un effet multiplicateur dans la même proportion, c'est-à-dire définir un socle de solidarité qui fait que chaque retraité peut bénéficier d'un niveau minimal qui permet d'avoir une retraite décente, et que après ceux qui ont les moyens, qui ont cotisé plus et qui n'auront pas forcément beaucoup plus de retraite que cette cotisation minimale, cette cotisation de base, ils ont les moyens, eux, d'aller cotiser sur des régimes complémentaires ou des dispositifs différents. Voilà, je pense qu'il faut sauver la retraite par répartition, le modèle français, sur une base, non pas minimale au sens baissière, mais de socle commun. Et après, pour ceux qui ont besoin de plus, ce sont ceux qui font des études, ce sont ceux qui ont des rémunérations élevées, ce sont ceux qui vont avoir moins de difficultés dans la vie, ils pourront trouver les moyens de se constituer leur retraite et des revenus accessoires.
Alors, après ces deux premières interventions, nous allons avoir les propositions ou la vision du sujet, du problème de Thibaut Casal, donc de la gauche.
Déjà, c'est important de rappeler, parce que j'ai entendu sur cette réforme des retraites, le mot « voter ». Il faut quand même rappeler qu'elle n'a pas été votée. C'est un 49-3 qui l'a mis en place, mais elle n'a pas été votée à l'Assemblée.
Pour ma part, j'ai dit « acté ».
Oui, présenté et acté et voté. Non, mais je tiens quand même à le rappeler, parce qu'on oublie quand même que c'est une des lois les plus impopulaires de la Ve République. Il y avait plus de 85% de la population qui était contre cette réforme. Au final, il y avait juste la base même du macronisme qui était pour, avec une opposition de droite comme de gauche. Par exemple, moi qui ai grandi dans le Lot, je me rappelle qu'Aurélien Pradier a combattu cette réforme des retraites. Donc on peut voir comme une opposition qui vient pas seulement de nous à gauche. Vu qu'on parle de la retraite et de comment financer, essayer de faire en sorte de combler ce déficit. On parle du coup de celles et ceux qui cotisent, donc celles et ceux qui travaillent. Et alors pourquoi ne pas écouter, par exemple, les syndicats qui représentent les travailleurs, avec Sophie Binet, par exemple, qui a aligné plusieurs propositions pour 40 milliards d'euros de recettes potentielles, avec mise à contribution des primes, de l'intéressement et de la participation, socialisation des revenus financiers des entreprises au même niveau que les salaires. Enfin, il y a des propositions aussi. Il y a des propositions et il faut peut-être aussi que les politiques et plus particulièrement le gouvernement essayent aussi de travailler main dans la main avec les acteurs sociaux, ce qu'ils n'ont pas fait pour cette retraite quand ils l'ont mis en place l'année dernière. Donc, et aussi rappeler, vu qu'on parle de la retraite et de ce financement, on parle de l'âge du départ aujourd'hui. Considérer qu'il faut 44 annuités, comme vous l'avez rappelé, ça va amener à ce que des personnes travaillent jusqu'à 69 ans, on l'a dit, ou un peu plus, hein, parce que tout le monde sort pas de
retraite à taux plein.
Oui, à taux plein. Parce qu'on dit à 25 ans, moi je me rappelle, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque j'étais en master, beaucoup de mes camarades avaient plus que 25 ans. Hein. Donc Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a des personnes qui se retrouvent du coup à devoir aller travailler jusqu'à plus de 70 ans pour avoir une retraite à taux plein.
Non, mais
c'est quand même excessif.
Vous jouez un peu sur les mots. Écoutez, quand moi j'étais étudiante, et comme beaucoup d'étudiants, je travaillais en parallèle.
Oui.
Bon, et donc j'ai même acquis des droits à la retraite quand j'étais étudiante. Et puis ceux qui sont en master à 27 ans, étant donné que le baccalauréat c'est à 18 et que le master c'est 5 ans, 18 et 5, 23, il en manque 4. Alors si ils ont certainement très bien occupé ces années, mais on ne peut pas. S'ils les ont occupées gentiment à cet âge-là, ils les occuperont autrement plus tard. Donc autant je suis très attentive à cette question de la durée du nombre d'annuités, mais ne jouez pas sur les mots en disant en master on a 28 ans, 29 ans, pourquoi pas 30 ans.
Non, j'ai pas dit qu'on avait 28 ans.
Il y en a, les responsables syndicaux généralement ça.
Il y en a, mais et aussi
mais ils
tout
sont pas très
dire
intéressants.
Ils sont pas très intéressants
vis-à-vis du calcul de la durée des retraites.
Ah d'accord, oui.
En soi, ils sont très intéressants.
Oui, non, parce que là je comprenais pas ce que vous vouliez dire dans ce sens-là.
Tout à l'heure on m'a dit que les femmes c'était intégrés, mais les étudiants rallongés.
Pas forcément, parce
normalement,
qu'il suffit d'avoir redoublé dans le secondaire.
Jusqu'à 26 ans. Hein.
Oui, mais il suffit d'avoir redoublé dans le secondaire, d'avoir raté une année de licence, etc. Et on se retrouve déjà très vite, oui, à 26 ans, 27 ans.
Ouais,
donc, c'est quelque chose quand même qui arrive.
Plus 5, oui, faut pas à travailler au mieux à 23 ans, et puis souvent 24, 25, effectivement.
Oui, et, mais donc, on en revient à ce qu'on disait, 44 annuités, c'est trop. C'est trop, et la retraite aujourd'hui, en France, avec notamment, si on arrive à la financer, et pourquoi pas écouter notamment ce que je rappelais tout à l'heure, ce que proposait Sophie Binet à la CGT, et revenir sur la retraite à 62 ans avec 42 annuités. D'ailleurs, actuellement, pendant les discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a des amendements sur le sujet et des amendements notamment de la part de députés NFP et là, dans ce cas précisément, de la France Insoumise. On a vu aujourd'hui en commission des affaires sociales un amendement pour abroger cette réforme des retraites. Le RN à midi 9, ils votent pour l'amendement. Entre temps, ils sont grondés par Marine Le Pen et du coup après ils votent contre l'article en entier à midi 41, empêchant ainsi d'écrire noir sur blanc retraite à 62 ans. Alors ça, je tiens quand même à le souligner parce que le Rassemblement National est en train d'essayer de faire croire qu'ils sont contre cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, ils le proposent dans leur niche parlementaire le 31 octobre. Mais en attendant, on voit bien que la réalité en commission fait qu'ils votent contre cette abrogation de la réforme des retraites. En fait, leur proposition, durant leur niche parlementaire, c'est de l'esbrouf, c'est juste fait pour essayer de avoir une victoire sociale, mais en réalité, en plus, leur projet de loi, même s'il est voté à l'Assemblée, et ça ne va pas être le cas d'ailleurs, parce que, enfin, il sera voté, mais il ne sera pas adopté, parce que plusieurs groupes ont déjà dit qu'ils ne voteraient pas cette proposition de loi. Et même dans l'hypothèse où ce serait voté, de toute façon, il ne passera pas devant le Sénat, parce que heureusement, le Sénat est encore assez à éviter d'avoir un nombre d'élus du RN suffisant pour avoir.
Et si on parlait de la réforme des retraites en tant que telle et non pas uniquement avec des petits jeux politiques?
Alors,
c'est ça qui est fondamental.
Alors, moi, ce que j'aimerais maintenant savoir, ce qu'a déjà fait Sacha Briand. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'il y a comme piste à explorer qui n'aurait pas été encore? Il y a l'augmentation des charges sociales. Ça, les entreprises n'en veulent pas. À droite, on n'en veut pas. Le patronat n'en veut pas. Et le RN non plus, d'ailleurs.
Bon. Attention, sur cette question de l'augmentation des recettes, notamment des charges sociales, il faut juste regarder quelle est la situation. On a aujourd'hui, en France et dans notre pays, le coût du salaire complet le plus élevé d'Europe avec le salaire net le plus faible pour les salariés. Donc là-dessus, il faut être prudent effectivement, et on peut au moins constater qu'il y a une réalité d'un coût qui est onéreux pour l'entreprise et qui à la fin donne un résultat faible pour le salarié. Donc c'est probablement pas là-dessus qu'il faut aller chercher.
Ça, c'est un point fondamental. Et là, personne n'est contre en soi. C'est un fait. De la même façon que ce qui est un fait, c'est qu'on vit plus longtemps. C'est un fait. Hein. À partir du moment où on vit plus longtemps, si on laisse l'âge de la retraite à 60 ou à 62 ans, ça veut dire que la durée de la retraite est longue et donc qu'elle est onéreuse pour l'ensemble de la population. Donc, les faits sont têtus. Et les petites bisbilles entre le RN et d'autres ne sont pas très intéressantes. Qu'est-ce qu'on fait quand ma mère est morte à 100 ans? Ma belle-mère a 97 ans. Elles sont toutes à la retraite. Et donc, il y a des chances que je vive jusqu'à 90 ans. Vous avez de la chance, je ne suis pas à la retraite. Mais il n'empêche que ce fait-là, pourquoi est-ce qu'on fait comme s'il n'existait pas? Alors que, parallèlement, les jeunes qui commencent à travailler à 15 ans sont de moins en moins nombreux. Donc ceux qui ont travaillé à 15 ans et qui aujourd'hui ont 62 ans, ceux-là, ils nous intéressent beaucoup. Mais dans 10 ans, aucun de mes petits-enfants n'a commencé à travailler à 15 ans. Et vous ne devez pas en connaître beaucoup. Donc au fond, il y a des phénomènes temporaires qui sont extrêmement intéressants, le travail des gens qui ont commencé à 15 ans, et on va voir ce problème se disparaître petit à petit, mais la question de la durée de la vie, elle va durer, on va avoir ce problème longtemps. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, et c'est pas sur les bisbilles du Front National, etc.
Et je précise que 58% des jeunes ont leur premier emploi entre 18 et 21 ans. Et que pour ceux qu'on semble mettre comme étant une vérité absolue, ceux qui ont un emploi à plus de 24 ans, c'est 11% seulement. Donc je crois qu'effectivement, il ne faut pas se concentrer sur des sujets qui ne sont pas des sujets représentant véritablement l'ensemble de la situation.
Alors, Thibaut Casal, vous. Pour pistes à explorer, dites-nous.
Sur les pistes à explorer, alors... Désolé, mais je vais encore parler d'un amendement, enfin, de quelque chose à l'Assemblée, mais parce que, en même temps, c'est là où c'est voté.
Mais vous avez
voilà.
raison.
Non, mais je le dis. La députée Zaya Hamdan, qui a. L'amendement a été voté en commission, donc on verra après si tout cela passe à l'Assemblée, mais pour instaurer une cotisation exceptionnelle sur les super profits au bénéfice du système de retraite.
Mais ça va durer combien de temps ?
Ça pourrait rapporter déjà 20 milliards.
Mais d'accord. C'est exceptionnel. Mais,
oui, bah, si c'est
ça
là.
Ça veut dire exceptionnel.
Exceptionnel, bah oui, ça veut dire que
c'est
là, ponctuel dans cette
aussi.
C'est quoi les super profits ?
Après, moi personnellement, je serai pour faire en sorte que ce exceptionnel ne soit pas juste de l'exception.
Non, mais c'est quoi les super profits ?
Alors là, voilà. Là, on a une ressource beaucoup plus stable. Mm-hmm. Hein, parce que les trucs exceptionnels, ça n'est pas ça qui finance une réforme.
Oui, ça, je suis d'accord.
Qui représente 5% du montant global des retraites.
C'est déjà apporter quelque chose. Et là, si on parle des super profits,
c'est quoi les
super profits?
C'est
entreprises pétrolières.
Oui, par exemple, voilà, sur ces entreprises-là comme Total, ces entreprises où en plus on aurait ce que aussi les écologistes parlent de super profits, parlent de comment dire, de taxation verte sur cette question des super profits dans des entreprises qui polluent. Donc, en plus, voilà, il faut essayer aussi de faire converger
ça,
tout ça.
Ça, déjà dans le budget 2025.
La proposition, c'est de taxer, par exemple, les produits pétroliers.
Par exemple, oui.
Et donc, 15 jours plus tard, lorsque le prix à la pompe augmente de 15%, quelle est la position du nouveau Front populaire ? Faire une deuxième taxe pour compenser la hausse des produits pétroliers.
C'est simpliste quand même de faire.
Parce que vous êtes parti d'une taxe exceptionnelle à dire une taxe permanente.
Je voudrais en faire une taxe permanente.
D'accord, mais une taxe permanente.
Là, pour l'instant, c'est quelque chose
d'exceptionnel. Ça devient un élément de composition du prix.
Là, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Donc, si une année une entreprise se voit taxée exceptionnellement, c'est une chose. Mais si c'est répercuté chaque année, ça veut dire qu'elle va le répercuter dans son prix. Donc, on va le retrouver dans le prix à la pompe. Donc, qu'est-ce que vous faites face à ça ?
Oui, mais ce qui serait beaucoup plus intéressant. Parce que là, dans le budget, on a déjà prévu de taxer les super profits. Alors, on ne va pas les taxer une fois pour la retraite, une fois pour le budget. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir un point qui, pour moi, est fondamental dans l'histoire de la loi sur les retraites. C'est que pour pouvoir travailler jusqu'à 69 ans, il faut avoir du travail jusqu'à 69 ans ou jusqu'à 64 ans.
Et pendant toute la durée de sa vie.
Et pendant toute la durée de
sa vie professionnelle.
Et ça, c'est important. Parce que nous savons tous, quelles que soient les tendances politiques, que lorsqu'on commence à avoir 55 ans, votre durée de vie dans l'entreprise, elle est fragile. Et donc, entre 55 et 65, entre 55 et 69, il y a une grande partie de la population qui ne peut plus, qui ne trouve plus de travail. Et on se retrouve confronté avec un problème que tous les pays ne connaissent pas. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à travailler. Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, on arrive plus facilement à travailler à 65 ans plutôt qu'en France ? Pourtant, les Allemands, ils sont peut-être un peu plus baraqués, mais enfin quand même, il n'y a pas tellement de raisons qu'ils arrivent mieux à travailler. Donc ça veut dire que nous, on a une faiblesse intrinsèque dans l'organisation du travail qui fait qu'à partir de 55 ans, on risque d'être éjecté du marché. Et ça change tout. Mmh. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Parce que ce sont des gens qui travaillent, donc qui payent des cotisations et qui attendent gentiment, entre guillemets, l'âge de la retraite qui peut être de 64, 65, voire 69 ans dans certains cas. Mais au moins, ils sont intégrés à ce problème. Et là, si on fait ça, la question de l'équilibre, qui est absolument fondamentale, elle se résout. Et c'est de ça qu'il faut parler. Et pas de l'amendement chose ou de l'amendement truc. C'est de ça qu'il faut parler.
Alors l'emploi des seniors, Sacha.
Peut-être ne faut-il pas oublier aussi, parce qu'on l'oublie vite, ce qui s'est passé récemment, c'est que depuis les années 80, on avait quand même une situation qui était marquée par un chômage endémique.
Absolument.
Et que depuis quelques années, c'est pas les politiques, à mon avis, qui l'ont résolu le problème, c'est plutôt la démographie. On a une baisse de la population active et donc on a une réalité qui est différente. Donc pendant des années, pendant 30 ans, on a essayé de déstocker, plutôt que de licencier, de déstocker les travailleurs de plus de 55 ans.
Des départs en pré-retraite.
C'est dur,
forcément,
déstocker.
On ne pouvait pas embaucher les jeunes. Aujourd'hui, la situation démographique fait que il y a un besoin de population active, on le voit. Donc, il faut trouver les conditions, c'est notamment l'apprentissage. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose de développer l'apprentissage à tous les âges et tous les niveaux pour faire entrer les jeunes plus facilement dans le monde du travail. Et il faut effectivement mettre un terme à ces départs volontaires ou aux incitations qu'il peut y avoir sur les départs anticipés et faire en sorte d'accompagner les salariés et les fonctionnaires. Je suis naturellement pour la suppression de la totalité des régimes spéciaux, y compris celui des avocats. Merci, mes chers confrères. Je suis favorable à l'universalité du système, qui est la seule condition, à mon avis, en tout cas une condition indispensable pour faire en sorte de trouver des solutions à ce problème.
Thibaut Casal, sur ce qu'a évoqué la Marie-Christine Monnoyer, donc l'emploi des seniors à une époque, à 55 ans, bon, quand on partait à la retraite à 60 ans, on pouvait arriver à 60 ans, bon, progressivement, certes, mais voilà. Maintenant, si c'est 65, c'est encore 10 ans de plus à travailler, voire 12 ou 13.
Oui, totalement. Et puis, c'est vrai que c'est un problème parce que dans plein de secteurs, malgré une expérience, malgré un CV, malgré tout ça, en fait, on se rend compte que plein d'entreprises ne veulent pas réembaucher ces personnes-là et qui, du coup, sont obligées, se retrouvent au chômage. Et bien souvent, on se retrouve aussi avec des personnes qui sont obligées, s'ils veulent retourner dans le monde du travail, d'accepter des emplois où ils sont peut-être surqualifiés pour ces emplois-là et qui ne sont pas en fait l'emploi qu'ils ont eu, l'emploi pour lequel ils ont fait leurs études.
Et peut-être qu'il faut étudier cette question-là. Et
oui, bien sûr.
Parce que si à 60 ans, on est.
C'est un vrai problème.
On dit on est surqualifié ou on est sous-qualifié. On sait tous que certains seniors ont une aisance vis-à-vis de l'intelligence artificielle ou des réseaux sociaux ou de l'informatique qui est plus légère que celle des plus jeunes. Et bien, dans ces conditions-là, on les paye moins. On garde les gens jusqu'à 65 ans, mais peut-être que leur salaire peut envisager d'être réduit parce que leurs compétences ne sont plus tout à fait celles qui sont demandées. Et ça, c'est quelque chose qui est étudié dans plein de pays, mais pas chez nous. Et pourquoi ?
Et puis un problème de formation, notamment sur ces questions-là aussi.
Oui, enfin, écoutez, l'informatique, ça existe depuis 45 ans.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un problème aussi de formation pour que tout le monde ait accès, justement, à ces nouvelles technologies qui arrivent.
Sacha Brion, vous pensez que ce serait envisageable, ça, de baisser les salaires des seniors à partir d'un certain âge parce qu'il y a un défaut de compétences ? Ça te paraît compliqué à mettre en œuvre.
Je rappelle qu'on est dans un pays où la moitié de la population active est dans la fonction publique, où le système de rémunération est basé sur la longévité.
Oui, voilà, j'imagine mal qu'on baisse les salaires.
Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le régime de retraite de la fonction publique territoriale est en déficit massif, et c'est une véritable catastrophe, que le régime des fonctionnaires d'État, notamment, dépend du budget de l'État et pèse extrêmement lourd dans le déficit, les deux pour des raisons... parce qu'ils bénéficient de systèmes de calcul du départ à la retraite et du montant des retraites dérogatoires par rapport au système privé. Donc on est quand même dans un pays où on est tout le temps à dire il faut aller chercher de l'argent sur le secteur privé, où le secteur privé a des règles moins protectrices que le secteur public et où le secteur public qui ne cesse de donner des leçons de morale à tout le monde s'applique à lui-même des systèmes dérogatoires. C'est un véritable scandale et il faudra un jour que les salariés du secteur privé se rendent compte qu'ils sont la vache à lait de ce pays. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut plus durer. Il faut harmoniser les règles de calcul. Ça veut dire, d'une part, les cotisations sur les systèmes, sur les indemnités, puisque dans la fonction publique, il y a peu de cotisations retraite sur les indemnités, ce qui avantage l'État, mais sur aussi la durée de calcul des retraites. dans la fonction publique les 6 derniers mois. Et vous savez qu'en plus, la technique dans la fonction publique, c'est que pour permettre aux agents de partir avec des retraites majorées, dans les 6 derniers mois, enfin, dans la dernière année, on leur fait des promotions. Comme ça, c'est-à-dire qu'on prend des décisions et puis on renvoie aux autres le soin de payer les conséquences de tout ça. Tout ça est un scandale, un véritable scandale. On a un
secteur
public.
Mais c'est drôle, on n'en a pas beaucoup parlé pendant la réforme des retraites. Mais
parce que les syndicats sont d'abord des syndicats de fonctionnaires. Ils ont 95% de leurs syndiqués dans la fonction publique. Et donc, ils ne défendent pas les salariés du secteur privé.
Oh, c'est un peu trop de dire qu'ils défendent pas les salariés du privé. C'est totalement faux de dire ça. Les syndicats pour tous les travailleurs, que ce soit dans le privé ou dans le public.
Mais tout de même, ce que pointait là, Sacha Briand sur le fait que oui, effectivement, dans la fonction publique, on va partir sur le salaire des 6 derniers mois. C'est 25 ans dans le privé, hein, c'est ça. Est-ce qu'on ne faudra pas quand même songer à un moment donné à harmoniser tout ça pour que ce soit plus juste? Parce que je ne vois pas comment on ne peut pas être d'accord sur le fait que ce n'était pas très juste.
Ah, c'est vrai que ce n'est pas très juste.
Alors, à l'époque, on disait c'est à ceux du privé de se battre pour arriver à avoir le même régime que nous. Bon, on sait que
ce sont des pistes qui sont quand même très intéressantes.
Il faut faire face aux réalités, je pense.
C'est quand même des pistes très intéressantes quand on est à calculer l'équilibre du régime des retraites. On ne peut pas faire comme si
il y a une question de justice quand même. Il y a une question de justice, il me semble. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table?
Moi, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter, oui, clairement. Parce que s'il y a du coup une injustice réelle à ce niveau-là. Et oui, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait traiter et que nous-mêmes à gauche, peut-être en discuter.
Vous en parlez, vous en discutez?
Non, je suis totalement honnête, non. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faudrait, oui, en discuter.
Que ce soit mis sur la table à un moment donné. Écoutez, on va rester là pour ce premier sujet. Les discussions se poursuivent et d'autres amendements visant à abroger la réforme des retraites vont être étudiés dans les jours et les semaines qui viennent. On aura très probablement l'occasion d'en reparler dans cette émission. Petite pause pour nous, pour souffler un peu, avant de reprendre nos échanges sur un autre sujet dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Ces questions-là, elles doivent être vraiment
mises. Alors attendez, nous sommes revenus à l'antenne, Marie-Christine Gonoyer, donc tous les trois, avec Sacha Briand et Thibaut Casal. La guerre entre Israël et le Hamas et l'intervention de l'armée israélienne à Gaza continuent de susciter des réactions diverses en France. Et dimanche, lors d'une interview sur Radio J, Bernard Kouchner a regretté, je le cite, la guerre disproportionnée que mène Israël à Gaza. Celle-ci nourrissant, selon lui, l'antisémitisme en France. Il a notamment déclaré, j'ouvre les guillemets, « Comment faire pour ne pas être antisémite quand on voit les dégâts de l'armée israélienne ? Contempler Gaza, c'est quand même un champ de meurtre, de désastre, c'est l'éclatement des familles. » Il a tout de même précisé que la réaction militaire d'Israël après le 7 octobre était légitime et nécessaire, mais que continuer comme ça et n'avoir de solution que militaire, c'est une erreur. Après les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères, évidemment, il y a eu beaucoup de réactions là encore, en France, mais aussi en Israël. Pour votre part, comment vous les jugez? Est-ce que vous partagez la vision de Bernard Kouchner, même partiellement, ou est-ce que vous êtes en total désaccord avec lui? Sacha Briand.
On vient de parler d'un sujet important qui est le départ à la retraite. Je pense que, y compris des responsables politiques, à un moment, doivent apprendre à se taire.
Il
évoque le terme. C'est peut-être une bonne chose de ne pas l'entendre. Il évoque la notion de guerre disproportionnée. Peut-être que pour lui, la guerre proportionnée, c'était lorsque les casques bleus en Yougoslavie n'avaient pas de consignes et laissaient la population se faire massacrer. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un conflit qui est puissant, où la légitime réaction de l'État d'Israël. Dans une situation où les organisations terroristes que sont le Hamas et le Hezbollah se protègent derrière la population, entraînent des pertes collatérales. Je rappelle que sur le plan des lois de la guerre, non pas morale, mais sur le terrain juridique, à partir du moment où des combattants se placent dans des établissements civils, ce sont des cibles légitimes. Donc, sur le plan juridique, il n'y a pas de, en l'état des éléments dont on dispose, il n'y a pas de crime de guerre qui puisse être retenu. Il y a eu un usage de la force qui est élevé, qui est élevé. Moi, personnellement, des guerres de faible intensité, je ne sais pas ce que c'est. Et là, on a aujourd'hui atteint un point de paroxysme dans la situation au Proche-Orient, avec une réaction israélienne qui me paraît être légitime, même si elle entraîne un usage de la force élevé, avec des pertes civiles manifestement importantes, mais dont, je le rappelle, ces pertes civiles sont d'abord la conséquence de la stratégie d'utilisation de boucliers humains par le Hamas et le Hezbollah. Ce que j'espère surtout, c'est que, d'une part, les Palestiniens prennent conscience que le Hamas en Palestine, dans les territoires, n'est pas une solution politique, et que le gouvernement libanais redevienne enfin un gouvernement et assume ses responsabilités pour reprendre le pouvoir sur son territoire. C'est ça l'enjeu. Cette crise, le seul point positif qu'elle peut amener, c'est d'une part la neutralisation, sinon l'élimination, des deux mouvements terroristes, et d'autre part la remise en état d'un État libanais qui serait capable de gérer le pays.
Donc pour vous, l'intervention de Bernard Kouchner et ce qu'il a pu dire lors de cette interview, c'est complètement à côté de la plaque, excusez-moi, du propos.
Oui, on peut le dire comme ça, on pourrait le dire plus méchamment encore.
Je vais le dire gentiment, je reprends une expression du général de Gaulle. Thibaut Cazal.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait que certains devraient se saisir de cet âge à la retraite et partir. Alors c'est vrai que Bernard Kouchner, on n'en entendait plus trop parler, moi c'est surtout... quand j'étais enfant, hein, qu'on entendait parler de lui. Hein. Donc, pour le coup,
on entendait beaucoup,
on entendait beaucoup
sur tous les sujets.
Mais franchement, sa déclaration. Enfin, on peut pas dire que ce que fait Israël, c'est un motif pour
justifier
quasiment légitimiser l'antisémitisme. Enfin, c'est grave de dire ça. Et en fait, c'est de tomber dans cette facilité de dire que le gouvernement israélien, en fait, serait représenterait tous les juifs. Mais c'est pas du tout. C'est pas. Enfin, je trouve ça bizarre que quelqu'un qui a été un responsable politique et notamment sur des questions d'affaires étrangères pour porter un regard comme celui-là et de dire ce qu'il a dit. Moi, je trouve ça très grave. Et il faut justement éviter de faire cette association entre ce que fait Netanyahou et le gouvernement israélien, et pour éviter cette montée de l'antisémitisme à cause des actions faites par un gouvernement, celui de Netanyahou sur cette question-là. La réaction de l'armée israélienne, moi je ne vais pas dire qu'elle est élevée, elle est disproportionnée réellement. On a maintenant une guerre. Alors, c'était légitime qu'Israël réponde à ce qui s'est passé le 7 octobre de l'année dernière. C'est tout à fait légitime. Et il faut condamner, et on l'a fait, je continuerai de toute façon à le faire, mais à condamner le Hamas, à condamner le Hezbollah. Mais en même temps, on ne peut pas non plus dire que tout est légitime et tout est possible par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et cette guerre... aujourd'hui, on a face à nous une guerre d'anéantissement et d'extermination, non pas du Hamas et du Hezbollah, mais des peuples palestiniens et libanais, qui sont en fait les premières victimes de ce qui se passe. Et aussi, toutes ces victimes, contrairement à ce que vous avez dit, s'ils sont morts, c'est pas la faute du Hamas, c'est la faute du gouvernement israélien qui frappe cette population. Lorsqu'à Gaza on affame, on coupe l'eau, c'est les populations civiles qui se retrouvent les touchées directement par ce qui se passe. Vous parliez des casques bleus en Yougoslavie, quand on voit des casques bleus qui sont tués lors de frappes israéliennes au Liban. Mais normalement, on devrait justement s'indigner face à ce qui se passe à ce niveau-là. Et il y a quelques années, je pense que si on avait vu des casques bleus se faire tuer dans cette façon-là, il y aurait eu beaucoup plus de réactions. Mais ces derniers temps, on remet de toute façon toujours en cause ce que fait l'ONU et surtout sur cette question-là. Et donc voilà, on se retrouve en fait à quasiment ne pas en parler.
Marie-Christine Monnoyer, alors je vais juste rappeler tout de même pour être très précis, hein, Frédéric Aziza, le journaliste qui interrogeait Bernard Kouchner, lui a demandé, vous dites qu'avec ce qui se passe à Gaza, c'est normal qu'on soit antisémite. Et Bernard Kouchner a répondu, ce n'est pas normal, mais la réaction peut être celle-là. Marie-Christine Monnoyer.
Alors je ne vais pas commenter directement ce qu'a dit Bernard Kouchner. Ce que je vis, ce que j'entends, ce que je sens. Nos pères, nos grands-pères, nous ont raconté que les élus du peuple pouvaient entraîner dans des conflits terribles dans lesquels la rationalité était oubliée. Nos profs d'histoire nous ont expliqué que les populations mettraient des générations à se remettre de ces conflits. Le cinéma nous a montré des images. Et j'étais au cinéma hier soir voir un film qui en montrait. Qui nous ont montré qu'il était possible que l'occasion de ces conflits, la dignité humaine disparaisse complètement. Alors, je regrette qu'on n'entende pas davantage ce que dans le journal Le Monde du 9 octobre a écrit un prof de philo qui s'appelle Pierre Zaoui. L'enjeu consiste à admettre que le salut vient uniquement de la négociation. C'est le seul point qui nous intéresse, parce qu'au fond, aujourd'hui, ils ont tous tort.
Oui, alors vous ne voulez pas réagir à ce qu'a dit Bernard Kouchner, mais tout de même, bon, on entend beaucoup moins depuis quelques années, mais moi je me rappelle une époque où on l'entendait beaucoup et sa parole comptait. Vous n'êtes pas tout de même étonné par son propos ?
Bien sûr.
D'autant plus sur une radio juive. Est-ce qu'il y a des juifs qui peuvent penser comme lui en France ?
Bah, forcément.
Probablement.
Forcément. Ces images, elles sont insupportables. Que ça se passe au Liban, que ça se passe à Gaza, c'est insupportable. Et donc, je connais des juifs qui quittent Israël parce que c'est désormais incompatible avec leur foi. La dignité de l'homme, c'est aussi bien fondamental chez les chrétiens que chez les juifs. Et donc, quand on est dans une situation dans laquelle votre pays se comporte d'une façon tellement violente, même par rapport à ce qu'il a subi, eh bien vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Et d'une certaine façon, quelle que soit votre religion, il y a des moments où vous devenez antisémite quand vous regardez ce qui se passe à Gaza ou au Liban.
Donc là, vous allez un peu dans le sens de ce que dit Bernard Kouchner.
Mais si vous voulez, je comprends que ce soit très difficile à entendre. Bien entendu, nous sommes tous marqués par le 7 octobre. Mais si on ne met pas les gens à discuter, la population jeune va oublier la Shoah et elle ne va se souvenir.
Ça semble que ce soit déjà le cas pour une partie de la population.
Et elle ne va se souvenir que de Gaza.
Alors, Bernard Kouchner, lui, est encore plus loin. Il a fait une déclaration que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est la science des imbéciles, l'antisémitisme. C'est un mal très profond. La France a toujours été antisémite. Est-ce que vous trouvez que ça a quelque chose à voir avec le sujet qu'il abordait, Sacha Briand ? Là, j'avoue, je me pose vraiment des questions.
Je ne crois pas qu'il y ait eu, souvent en France, il y en a eu, hein, il y a eu des auteurs antisémites dans la structure intellectuelle.
Mais quel lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël ?
La culture catholique, pendant des siècles, a mis à part les deux antisémites, les juifs, comme d'autres minorités sur lesquelles, quand il fallait tomber sur quelqu'un, on tombait sur eux.
Oui, bien sûr.
Mais il n'y aurait pas eu les juifs, ça aurait été les protestants, et quand ce n'était pas les protestants, c'était les juifs, ça aurait été d'autres s'il y avait eu d'autres minorités. Je n'ai pas dans l'histoire de France la marque d'une situation qui soit structurellement, doctrinalement antisémite.
Toujours été antisémite. Je ne sais pas s'il remonte à l'âge de fer, mais...
Non, mais il y a peut-être eu un fond d'antisémitisme culturel, mais certainement pas... d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, antisémitisme culturel, mais... voilà, je ne pense pas que la France soit un pays antisémite. Et en tout cas, elle ne l'est pas aujourd'hui. Je pense que la question qui a été abordée par M. Kouchner, c'est le fait que ça crée forcément, y compris dans notre société, on le voit, hein, une excitation chez une partie de la population et chez une partie des responsables politiques, ça c'est plus grave encore, qui stigmatise M. Netanyahou, à l'égard duquel d'ailleurs j'ai assez peu de sympathie, le gouvernement israélien, donc Israël, et à la fin, par translation, les Juifs. Bon. Je pense qu'il faut cependant, parce que j'entends ce qui a été dit, que la situation, les images sont intolérables, etc. Mais enfin, la guerre en elle-même, c'est quelque chose qui choque et qui attente à la dignité humaine. La guerre, ça a toujours existé, ça existera toujours.
Oui, mais elle est de plus en plus violente.
Non, elle est de plus en plus vue.
Ah non.
C'est la chose très différente.
Bouvines, certaines guerres,
un mort. La bataille de Bouvines que vous avez tous appris à l'école, un mort. Aujourd'hui.
Mais les moyens n'étaient pas les mêmes.
Non, mais c'est, les moyens ne sont pas les mêmes.
Sur la bataille, un mort.
Mais non, mais d'accord.
Il y a eu des exécutions après, cependant.
Non, mais on est d'accord.
Mais oui, non, mais il y, outils... y en a eu quelques. Je crois que c'est par contre beaucoup plus, les exécutions. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on prend les périodes d'artillerie lourde ou les phases d'artillerie lourde qu'on peut voir sur un certain nombre de terrains de conflit, quand on voit ce qui se passe en Afrique, dans un certain nombre de régions africaines, où il y a des massacres mais monstrueux de la population. Alors c'est vrai, c'est pas très technologique. Le plus souvent, c'est au couteau ou à la balle dans la tête. Mais enfin, c'est tout aussi ignoble. Et je suis désolé.
On n'a pas d'image.
Aujourd'hui, sur ce qui se passe tant à Gaza que au Liban, et notamment au Liban, on n'est pas sur des frappes massives. On est sur des frappes ciblées, sur des immeubles, sur des lieux, après des avertissements diffusés par l'armée israélienne. Il n'y a pas beaucoup d'armées au monde dans des conflits qui diffusent des communiqués pour savoir quelles sont les frappes.
Mais il y avait des déclarations de guerre.
Il n'y a pas beaucoup de guerres et de situations dans lesquelles l'armée donne des indications et fait des communiqués pour dire on va frapper dans tel secteur, il faut évacuer tel secteur. La réalité, elle est là.
Gaza, c'est petit.
Oui. Gaza, c'est petit, et effectivement, la population est bloquée par le Hamas.
Et dès qu'ils font partir la population, ils récupèrent les territoires aussi. Donc, bon, c'est...
Et dès qu'ils arrivent à libérer la population, on l'a vu il y a 48 heures, où ils ont fait sauter des barrages du Hamas, et où la population a pu sortir de l'enclave. La réalité, elle est là. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans une... Alors, je ne veux pas me faire, encore une fois, je ne me fais pas le défenseur de la force, mais l'idée au terme de laquelle, aujourd'hui, par un effet de prisme assez étonnant, on renverserait la responsabilité du conflit sur Israël, me paraît malhonnête. On a aujourd'hui, vous parliez de négociations, bien sûr que, de toute manière, il y a une certitude, c'est qu'il n'y a que les solutions politiques et de négociations qui peuvent aboutir à une paix durable. Le problème, c'est qu'on a deux organisations terroristes qui veulent la destruction d'Israël.
C'est dans leur charte.
Tant que ces deux organisations ne renonceront pas... Moi, j'ai une conviction, vous voyez. Je me trompe peut-être. Hein, mais si le Hezbollah et le Hamas rendaient les armes et renonçaient à la lutte armée, je ne crois pas qu'Israël déclencherait des conflits. Je ne sais pas. Spontanément comme ça, je ne crois pas qu'Israël engagerait des conflits territoriaux.
Sauf que...
Et s'ils relâchaient les otages aussi,
je pense pas. Naturellement.
Oui, allez-y, Marie-Christine.
Oui, sauf que ça ne suffirait pas, puisque le problème qui est derrière, c'est où vivent les Palestiniens.
Mais ce n'est pas le sujet. Le Hamas et le Hezbollah se fichent de ça. Ils se fichent des Palestiniens. Ce sont les bras armés de l'Iran, qui est une minorité chiite dans un ensemble sunnite, et qui n'a que ça pour exister, pour essayer de dominer le monde arabe. C'est que ça. Le problème, c'est la volonté impérialiste de l'Iran, héritière de la Perse, face à des concurrents sunnites.
Je ne peux pas être d'accord.
Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'on dérive un peu là sur de la géopolitique. C'est un sujet fort intéressant, mais on a pas... J'aurais posé la question à notre ami Thibaut Caza, parce que vous êtes prof d'histoire, si je ne me trompe pas.
Oui.
Quand vous lisez que Bernard Kouchner dit que la France a toujours été antisémite, vous qui êtes jeune, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Parce que moi, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il est resté bloqué dans les années 80, Bernard Kouchner, à l'époque où son ami Bernard-Henri Lévy sortait, faisait paraître ce livre qui s'appelait « L'idéologie française ».
Alors, bloqué en 1980, je dirais plus en 1880, parce qu'à la rigueur, si on parle
de l'affaire Dreyfus, etc. Dedans, à l'époque, oui. En 81.
Enfin, moi, déjà, ça me pose toujours un peu problème quand on dit...
D'aujourd'hui, c'est pas celui des années 30.
Quand moi, ça me pose quand même toujours problème quand on dit la France est antisémite, comme quand on dit la France est raciste, quand on dit la France... Et qu'on fait... en fait, voilà, on prend une globalité comme ça pour dire la France est ceci, cela. Moi, je vois pas en quoi la France a toujours été antisémite, je ne le pense pas. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre de A à Z cette interview de Bernard Kouchner. Hein. Il aurait pu se l'éviter et nous l'éviter, parce que franchement, je vois pas trop là où il veut en venir. Et de dire que la France est historiquement antisémite, c'est faux. Comme vous l'avez rappelé, oui, il y a eu des auteurs antisémites, des hommes politiques antisémites à gauche, aussi à droite, etc. Donc non, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il a voulu dire par là, durant cette interview.
Vous, Marie-Christine Monnoyer, ça ne vous interroge pas, là, ce propos ? La France a toujours été antisémite.
En tout cas, c'est...
Qu'est-ce que ça vient faire, en plus, dans
En tout cas, c'est extrêmement maladroit.
Oui.
C'est extrêmement maladroit parce que il y a des personnes qui sont antisémites, il y a eu des personnes qui étaient antisémites,
et il y en aura d'autres.
Donc, au fond, est-ce que cela veut dire que ça a toujours existé ? Par petits bouts, oui, comme il y a toujours eu des gens...
Il dit bien la France, hein, il ne dit pas une partie de la population française.
C'est une erreur, voilà. Et c'est une erreur gênante parce qu'elle est maladroite et qu'elle peut donner lieu à des discussions entre diverses partis politiques qui ne nous arrangent pas. On n'a franchement pas besoin
d'autres chefs
de
aussi.
Ça.
Bon, toujours est-il que le sujet est et demeurera, hélas, sans doute ultra sensible encore pendant quelques temps, et pas seulement en France. Il nous reste un peu de temps pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Eh bien, c'est Thibaut Casal qui va ouvrir le bal. Je suis sûr que vous avez quelque chose pour nous.
Ben, mon coup de cœur, alors c'est peut-être pas très original, mais c'est le retour de la machine à Toulouse, dans les rues de Toulouse. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Donc un vrai coup de cœur pour la compagnie de la machine, pour monsieur Delarosière, et j'en profite aussi pour remercier du coup Pierre Cohen qui a été à l'initiation de ce projet lors de son mandat
de
2008 à 2014.
La compagnie de la machine, pas du spectacle.
Là, je parle du spectacle, oui. Enfin, pas du spectacle, mais le fait qu'il y ait les halles de la machine et qu'ils puissent s'installer à Toulouse, alors que Delarosière avait dû quitter Toulouse à l'époque de Dominique Baudis, quand il s'appelait encore Royal de Luxe.
Royal de Luxe, ils étaient partis à Nantes, effectivement.
C'est ça.
Marie-Christine Monnoyer, est-ce que ça va être un coup de cœur ou un coup de gueule ?
C'est un coup d'angoisse en voyant... C'est un coup d'angoisse en voyant l'augmentation du nombre des très jeunes gens qui meurent dans des bagarres liées au marché de la drogue. Pratiquement cette semaine, on en a eu un, puis deux, puis trois.
Bon, je crois qu'il n'y a pas une semaine, malheureusement, où il n'y a pas ou des règlements de compte ou des.
Oui,
des
mais là, les gens sont extrêmement jeunes. Les règlements de compte touchaient plutôt des gens très engagés. Et là, on entend des tout jeunes gens de 14-15 ans. Et on ne peut pas ne pas se poser la question, comment ça se fait qu'à 14 ans, il vous arrive d'être impliqué dans des histoires pareilles ?
Oui, il y a une dérive effectivement en France qui commence de plus en plus à ressembler à ce qui se passe en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et il est vrai que ça effraie un petit peu, parce que maintenant, il y a des jeunes de 13-14-15 ans qui sont recrutés pour tuer.
Aussi.
On en est arrivé là tout de même.
Voilà, c'est ça.
Oui. Sacha Briand.
J'aurais pu moi-même évoquer la machine.
Mais vous avez
je pensais le faire, mais ça a été, ça a été évoqué. Peut-être
polémique. Hein.
Peut-être juste rappeler quand même que c'est bien notre équipe qui a pris en compte ce projet pour en faire un véritable spectacle urbain. Et faire en sorte que la machine puisse sortir de la halle pour aller à la rencontre des Toulousains. Et c'est une très grande réussite, je crois. On le verra ce week-end, puisque vendredi, samedi, dimanche, on attend plus de 900 000 personnes.
En 2018, il y avait eu 900 000 personnes dans les rues de Toulouse.
Et donc,
pour le précédent,
on verra, mais il y a des signes qui laissent supposer qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. J'espère que tout se passera bien. Et je dois dire que les équipes de la ville sont très mobilisés pour faire en sorte d'organiser dans les meilleures conditions ce spectacle. Et j'invite les Toulousains et ceux de l'agglomération.
Vous êtes choqué parmi les chrétiens, je ne sais pas si c'est votre cas, Marie-Christine Monnoyer.
Moi, ça ne m'a pas du tout choqué, mais je sais que ça a beaucoup choqué des chrétiens, et je regrette que ça les choque.
Après, il faudra voir à quoi ça ressemble. Alors, Sacha Briand, vous, en dehors du spectacle de la machine, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Alors, j'aurais tendance, dans ce cas, à évoquer un coup de gueule, parce qu'on a vu cette semaine l'histoire de ce député, Carbra, je crois,
oui.
Qui s'est fait prendre en flagrance en train d'acheter de la drogue, du Semchex en plus, du Chemsex, je ne sais plus quoi.
Oui, Chemsex.
Et de voir le réflexe de défense de M. Mélenchon, de Mme Rousseau, qui, s'il s'était agi d'une personne qui ne soit pas LFiste aurait immédiatement exigé sa démission, faire preuve d'une telle hémiplégie lorsque c'est monsieur Quatrenins, lorsque c'est ce monsieur ou quelques-uns de leurs amis qui sont pris en faute, ça témoigne d'une véritable situation, je crois, sectaire. C'est-à-dire d'un groupe replié sur lui-même qui défend ses membres au détriment de la société. Et dans le contexte qui a été évoqué de ce qu'amène la drogue dans les quartiers, c'est absolument indigne et innommable de la part de responsables politiques.
Cette 167e mêlée de l'info est terminée et merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités et d'avoir débattu dans les règles. Merci également à Coraline Camebrac qui a assuré une fois de plus la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à vous, chers auditeurs, de votre fidélité à cette émission. On se retrouve maintenant jeudi prochain. À bientôt.